Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce conseil municipal. Donc, dans un premier temps, les pouvoirs. Donc, Madame Robert a donné pouvoir à Monsieur Vernier, je pense qu'il va arriver. D'accord. Sabine Adrien a donné pouvoir à Corinne Tonduf. Éric Correa a donné pouvoir à Delphine Bonin. Jean-Baptiste Contarin m'a donné pouvoir. Zélinda Scheller a donné pouvoir à Erwan Gargadenec, qui n'est pas arrivé non plus. Et donc Sylvie Bourdier a donné pouvoir à Gilles Brunati. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs dont je n'aurais pas parlé? Non? Bien, alors écoutez, en préalable à cette réunion, je souhaitais pouvoir vous présenter Madame Aurélie Bildé, qui est la nouvelle directrice cohésion sociale, sport, culture, qui remplace donc Thomas Goupillou depuis début septembre, Aurélie, n'est-ce pas? Donc voilà, Aurélie, vous voulez nous dire deux petits mots de votre cursus? Prenez le micro peut-être de Monsieur Delettre, il y a un peu de place.
Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis en position de détachement. Je suis issue du ministère de l'Éducation nationale où j'étais personnelle de direction en tant que principale de collège après avoir été proviseur adjoint. Il se trouve que dans mon cursus universitaire, je sors d'un DESS aménagement du territoire, économie du développement local et diplôme universitaire, économie, tourisme et loisirs. Ce qui veut dire par conséquent que j'ai travaillé également dans les collectivités au préalable où je coordonnais l'activité d'une communauté de communes. Donc l'ensemble de ces expériences fait qu'aujourd'hui j'ai postulé à la mairie et je suis ravie d'y avoir été recrutée. Voilà.
Merci. Merci Aurélie. Donc de la part de tous les élus de Guéret, bienvenue sur vos nouvelles fonctions et sur une direction qui est très très vaste. Merci Aurélie. Alors je vous demande en premier point de bien vouloir approuver donc le compte-rendu du conseil municipal du 28 juin 2021. Donc tout le monde a dû en avoir connaissance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? Non. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je vais désigner comme volontaire, comme secrétaire de séance, Monsieur Mouteau. Merci Christophe. Voilà. Bien. Alors je vous propose de passer au premier dossier. Le premier dossier, c'est une étude qui concerne la place Varillas et qui va déboucher, si vous l'acceptez, sur une convention de partenariat avec l'ENSAP de Bordeaux. Alors, en fait, on a appris un petit peu par inadvertance que l'inspection académique avait demandé au campus des métiers de faire une étude pour la rénovation de son bâtiment au 1 place Varillas. Le campus des métiers, c'est un ensemble d'écoles qui mettent en commun leur capacité, leur potentialité pour essayer de faire par leurs étudiants des projets d'envergure qui leur servent de projets de fin d'études. Donc ce campus des métiers, c'est 18 établissements d'excellence, c'est des partenaires économiques et associatifs, c'est 150 enseignants et formateurs, c'est 2250 apprenants qui vont du CAP jusqu'au doctorat et ils forment à 69 diplômes et certifications. Donc c'est vraiment une grosse machine de guerre et avec des étudiants qui sont des étudiants d'excellence. Donc quand j'ai appris le projet de l'éducation nationale, j'ai contacté la personne qui centralisait ce projet en me disant c'est quand même très dommage que ce 1 place Varillas soit revu sans qu'on tienne compte de son environnement qui est la place Varillas, d'autant plus que sur la place Varillas, avec notre petit théâtre et nos écoles, on a des projets aussi qui méritaient de pouvoir être étudiés. Donc tout le monde a accepté que la mairie de Guéret puisse se greffer à ce projet et donc on a demandé à la Haute École d'Architecture de Bordeaux de pouvoir nous... Excusez-moi, c'est très pénible ces bruits de fond. Voilà. On a demandé à la Haute École d'Architecture de Bordeaux de pouvoir nous faire des projets de valorisation de l'intégralité de la place Varillas, petit théâtre, annexe du petit théâtre, utilisation de cette place et lien avec les écoles, puisque les écoles entourent cette place. Les étudiants sont venus la semaine dernière, ils étaient 15 architectes déjà diplômés qui se spécialisent dans le patrimoine, dans l'éco-construction, dans l'urbanisme urbain. Et donc ils sont venus repérer le terrain, ils étaient extrêmement intéressés par ce projet. Donc ils vont nous faire des premières propositions fin novembre. Et bien entendu, sur ces propositions, l'ensemble du conseil municipal sera invité et nous déciderons ensemble de la communication et du partage qu'on peut faire avec les Guérétois, parce qu'il est aussi très important pour des changements comme ça d'envergure d'avoir l'œil, bien sûr, de nos concitoyens sur ces projets-là. La participation unique de la ville pour ce projet, c'est-à-dire de l'étude jusqu'au retour des projets finalisés, et je répète qu'on en aura 5, on aura le choix entre 5 projets différents, coûterait à la ville de Guéret 3000 euros. C'est le déplacement de ces étudiants pour les 2 jours qu'ils ont passé à Guéret la semaine dernière, donc 15 étudiants, 3 accompagnants, donc c'est juste l'hôtel, les repas et le car, et jusqu'à la fin de l'étude, on n'aura aucun autre apport. Voilà. Donc, je vous propose de valider cette convention de partenariat avec l'ENSAP de Bordeaux, qui ne nous engage à rien. L'idée, c'est d'avoir un œil neuf, jeune, et je dirais même très, très polyvalent, parce que sur les 15 étudiants qui étaient présents, il n'y avait qu'un étudiant français. L'ensemble des autres étudiants venaient de l'étranger, du Liban, d'Égypte, d'Europe de l'Est. Et ça risque d'être extrêmement intéressant sur la façon dont ils vont traduire notre projet pour la place Varillas. Donc, je vous propose donc d'autoriser la signature de cette convention et le versement de ces 3000 euros maximal. Ça nous coûtera peut-être un tout petit peu moins cher pour leurs frais de déplacement et d'hébergement. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Vernier ?
Je veux redire sur ce sujet ce que j'ai dit souvent. On n'est pas sur un sujet mineur. La rénovation de l'espace urbain, c'est un projet qui, d'ailleurs, je l'avais dit avant de lire un journal cette semaine, et j'ai vu qu'on partageait cet avis. C'est quelque chose qui engage la ville pour un demi-siècle. On ne modifie pas un espace urbain tous les 4 ou 5 ans comme on peut modifier une rue. Une rue, on se trompe. Un sens de circulation, on se trompe. C'est embêtant, c'est considéré comme quelque chose, souvent on nous fait des reproches là-dessus, mais ça n'engage pas, c'est des travaux lourds. Alors, en regardant la convention, j'ai vu que c'était une convention purement technique, moi je ne discute pas les 3000 euros. Attention quand même aux accumulations de dépenses dans la situation financière, mais on en reparlera au moment du budget. Mais ce n'est pas ça qui me... Je n'ai pas vu de cahier des charges qui était défini par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est laissez-vous aller sur la place Varillas. Je le dis, c'est pas péjoratif, hein, mais laissez-vous aller là-dessus et puis dites-nous un peu ce que vous en pensez. Donc il n'y a pas de choses encadrées qui définissent un peu les choses telles que vous les voyez sur l'aménagement en espace vert ou des choses comme ça. Ils n'ont pas eu de consignes.
Si, donc, bien sûr que si.
Première question là-dessus, ça serait bien qu'il y ait quand même que les choses soient un petit peu cadrées, selon moi, hein, je me trompe peut-être. Et l'autre chose, mais ça a été dit par Marie-Françoise Fournier, par le maire, donc ça me rassure. Je répète que l'engagement que vous aviez pris dans votre mandat, mais c'est pas pour vous rappeler ça, parce que le nôtre était le même. C'est de dire que sur des projets comme ça, ils ne pouvaient pas se prendre de décision sans que la population donne, en tous les cas, au moins son point de vue, j'allais dire son aval, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais qu'on puisse être certain qu'on fait ça avec l'accord de la population. Donc il faudra revenir vers les quartiers ou vers des réunions à thème là-dessus, avec des projets qui sont visibles, que les gens peuvent regarder et qu'on peut modifier. Donc, je voterai ce dossier sur le principe, parce qu'il nous interroge sur le fait de pouvoir aider à l'hébergement, à des choses comme ça, et puis de recueillir d'avoir un œil de jeunes étudiants. Mais l'autre question, mais ça vient d'être précisé, c'est bien et le bâti et l'espace public. Parce que j'ai vu qu'il y avait dans la convention la prolongation du petit théâtre. Mais alors ça veut dire que ce projet-là ne sera pas dans la mission des architectes puisqu'il va y avoir un concours d'architectes. Et le concours d'architectes portera donc sur la même chose. Alors est-ce que les architectes seront en liaison les uns avec les autres? Voilà, c'était des choses que je voulais un petit peu qu'on nous précise. Merci.
Donc le cahier des charges, il existe, bien entendu, je vous le communiquerai volontiers. Ces étudiants ne viennent pas à la place des architectes, bien sûr, qui vont travailler, qui sont mandatés sur le petit théâtre. On s'est dit que, d'une part, ça permettait à des étudiants d'avoir un projet de fin d'études qui était intéressant. Donc c'est aussi, quelque part, une participation à leur cursus universitaire, et on trouvait ça extrêmement intéressant. Et c'était aussi avoir un œil neuf, des idées un petit peu nouvelles qui pourront alimenter ou pas, suivant ce qu'on va nous proposer, le regard des architectes qui travailleront sur le petit théâtre. L'idée, c'était d'avoir un apport supplémentaire, et je ne pense pas que sur les cabinets d'études, à 3000 euros, avec un groupe de 15 architectes de très haut niveau, je pense que c'est extrêmement compétitif et qu'on aurait eu vraiment tort de se priver de cette compétence.
Voilà. Je n'ai pas dit ça, je dis qu'il faut bien coordonner, parce que j'ai lu que le concours d'architectes allait être lancé.
Oui, oui, tout à fait.
On a un peu l'habitude des concours d'architectes, on sait ce que ça veut dire, et on sait comment l'ordre des architectes et les architectes eux-mêmes réagissent à un certain nombre de choses. Donc je ne mets pas en garde, mais je dis attention que avant le concours d'architectes, les architectes soient bien informés qu'il y a eu ce travail avec les étudiants en architecture, aussi brillant soit-il. Il faut ménager les susceptibilités, non pas des étudiants, mais surtout des architectes quand on va leur demander le concours. Voilà, et si je peux me permettre très, très, très modestement ce conseil et cette demande.
On en tiendra compte, Monsieur Vernier. Quant à la consultation de la population, donc je vous rassure, et les étudiants et nous, après la délivrance de leurs travaux, on consultera les Guérétois. Et je souligne juste que c'est un conseil avisé, mais que peut-être consulter les Guérétois pour un chantier comme le musée, par exemple, ça aurait pu être une possibilité aussi. Bien, y a-t-il d'autres...
Faut pas dire ça.
Je le dis quand même, Monsieur Vernier. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Monsieur Delettre.
Oui, je voulais juste souligner ce qui, à mon avis, constitue toute la pertinence du recours à ces étudiants. Vous avez dressé la liste assez longue des avantages et des intérêts de procéder de la sorte. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez dit, c'est que vous nous rappelez que c'est le hasard qui vous a conduit à prendre contact avec eux. Et c'est bien dommage, parce que je pense que les collectivités auraient intérêt à avoir comme réflexe quasi systématique la sollicitation de ces ressources dont on dispose sur le territoire. On a la chance, et c'est le travail de certains de ceux qui nous ont précédés dans ce conseil, de disposer sur le territoire d'un certain nombre de cursus, de formations d'étudiants. Disposer des ressources, c'est bien. Savoir les utiliser, c'est mieux. Et alors, on a des étudiants ici. Il faut penser aussi, et je crois que c'est le cas d'une étudiante qui est intervenue dans le cadre du projet de centre-ville, qui a donné son avis. Il faut aussi penser aux formations dont on ne dispose pas ici, mais aux étudiants guérétois. Je pense à des étudiants en architecture, en histoire, etc., qui pourraient sans doute, dans le cadre de leur cursus, apporter quelque chose d'intéressant. Voilà, tout le monde est gagnant. Je pense que ça se fait, comme vous le dites, avec une économie de moyens, sans engagement particulier, et que les collectivités, dans leur ensemble, devraient avoir plus souvent ce réflexe Et on va le voir, d'ailleurs, je vais réintervenir tout à l'heure sur un autre dossier pour vous faire une proposition de cette nature-là avec un cursus qui existe à Guéret. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vous remercie. Donc, je vous propose de répondre favorablement à ce partenariat et de m'autoriser à signer la convention et à engager les crédits nécessaires. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le deuxième dossier concerne RailCop. Donc, on a déjà eu l'occasion de discuter de notre adhésion à cette société RailCop, donc qui est une société qui va développer le ferroviaire, surtout sur les petites lignes de province, et dont le plus gros projet est la ligne Lyon-Bordeaux, qui passe par Guéret. Nous avions, en février 2021, délibéré pour adhérer à cette société et nous avions pris 20 parts de 100 euros. Ce que nous ignorions à l'époque, c'est qu'on ne pouvait pas prendre un nombre de parts arbitraire, mais qu'il fallait cotiser à hauteur de 55 centimes d'euros par habitant. Donc la société RailCop n'a pas fait appel de la subvention, enfin du montant des parts qu'on avait souhaité prendre, et ne nous a toujours pas intégrés à son groupe de sociétaires parce que nous n'avions pas adhéré à hauteur de 55 centimes d'euros. Je pense qu'on n'a pas changé d'avis sur l'importance de ce travail avec RailCop et le fait de pouvoir adhérer à 55 centimes d'euros, je l'ai signalé aussi à la Com d'Aglo en juin, puisque la Com d'Aglo, elle aussi, s'est trompée sur le montant de sa cotisation et donc ne fait toujours pas partie au jour d'aujourd'hui des sociétaires de RailCop. Et moi, je voudrais remercier particulièrement Mme Marachelli, qui porte ce dossier toute seule depuis le début et qui a même adhéré à titre personnel pour nous permettre de rentrer parmi les sociétaires et d'avoir un contact absolument régulier avec le directeur de RailCop. Donc, on a rencontré les dirigeants physiquement souvent, on a échangé avec eux par visio, par téléphone. On est très, très impliqués dans cette société. Donc, il ne nous reste plus qu'à nous y impliquer financièrement à hauteur du montant réglementaire. Et je vous rappelle que l'enjeu de ce travail avec RailCop, c'est entre autres, en dehors de la ligne Lyon-Bordeaux et des autres lignes de province qu'il pourrait activer, c'est le fait qu'il pense pouvoir monter sur Guéret une base qui permettrait au personnel roulant de changer de poste au niveau de Guéret et qui attirerait donc sur Guéret des familles et en tout cas des professionnels. Voilà. Donc, je pense que c'est un dossier sur lequel on a déjà échangé. Est-ce que vous voulez des précisions supplémentaires, Monsieur Brunati?
Oui, non, c'est juste une remarque pour constater, bon, on avait accepté la fois d'avant, donc là, on va accepter de même. Mais enfin, c'est quand même valider quelque part la diminution et la dégradation du service public. Puisque moi j'ai connu, étant originaire de Périgueux, j'ai connu cette liaison Bordeaux-Lyon assurée par la SNCF, et c'est quand même assez anormal que les collectivités soient obligées de mettre la main à la poche pour compenser la pénurie et la défaillance du service public. Voilà, donc je voulais le rappeler. Et puis dire aussi qu'on sera vigilant sur le statut du personnel, notamment le personnel qui sera issu de la SNCF, pour qu'il n'y ait pas de perte de revenus et de statut pour eux. Voilà.
Alors, je n'ai pas précisé, donc, RailCop vient de se voir octroyer sa licence d'entreprise ferroviaire. Et donc, la ligne Bordeaux-Lyon devrait être programmée pour le mois de juin 2022. Voilà. Mais votre réflexion est tout à fait pertinente. Et le fait d'être sociétaire à part entière de RailCop va nous permettre, dans toutes les instances, de pouvoir aussi être vigilant à ce que vous avez souligné. Et RailCop, c'est une société qui est très ouverte à la discussion. Donc, j'enjoins aussi tous les élus autour de cette table qui sont intéressés par la thématique de nous rejoindre quand on discute avec eux. Et Gilles, tu seras le bienvenu s'il y a des choses à faire remonter. Au web, oui. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Donc, nous vous proposons de modifier la prise de participation, donc en vous redisant que la subvention accordée en février n'a pas été levée. et donc de prendre 71 parts de 100 euros chacune pour adhérer donc à la société RailCop et d'inscrire donc les crédits nécessaires au budget 2021, de m'autoriser à signer tous les documents utiles à l'aboutissement de ce projet. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Alors, le troisième dossier concerne le FIFDE MGEN 2022. Alors, nous sommes tous autour de cette table sensibles à tout ce qui touche à la santé de nos enfants, aux liens parents-enfants et à la promotion de la ville. Et l'opération FIFDE va, à mon avis, à notre avis, réunir ces trois facteurs et qui plus est, arrivera dans un contexte de Jeux Olympiques, donc ce qui nous permet aussi d'être cohérent avec cette image de ville préparation aux Jeux Olympiques. Alors, la MGEN s'est appuyée sur l'association TIGRE, T-I-G-R-E. Elle a été constituée, cette association, justement pour servir juridiquement et financièrement de porteur à ces journées. Elle se déroule dans toute la France. Certaines villes sont désignées chaque année et la liste d'attente est longue. Et FIFDE MGEN a souhaité venir en 2022 sur la Creuse. Ils n'ont aucun autre village sur le Limousin en 2022 et ils souhaitaient pouvoir intervenir sur la Creuse, surtout aussi à cause de notre statut lié à la préparation des Jeux Olympiques. Alors c'est un vrai village qui va s'installer sur la place Bougnot, si vous validez ce projet, le 7 juin, c'est un lundi. C'est un village qui est livré clé en main et qui à la fois va permettre aux enfants de s'essayer au triathlon. Donc il y a une véritable piscine qui est montée sur la place Bougnot, une piste de triathlon, une piste de vélo, une piste de course. Et il y a tout un tas d'ateliers autour qui touchent à la santé, à l'écologie, à la citoyenneté, à la solidarité, à l'alimentation. Et les enfants, toute une journée, peuvent tourner sur ce village. Alors l'idée, c'est d'accueillir 420 enfants, ce qui nous ferait donc les classes de CE2, CM1 et CM2 de la ville de Guéret. Le coût de l'opération globale est de 48 000 euros et donc 90% de ce coût est pris en charge par la MGEN et ses sponsors. Et donc on nous demande de participer à hauteur de 4 900 euros. En fin d'après-midi, c'est un challenge parents-enfants qui est proposé. Donc les enfants font le triathlon avec leurs parents et ça peut donner l'occasion d'une qualification à des FIFDE régionaux puis nationaux, avec à la clé pour les villes qui participent des cadeaux d'importance, entre autres toute une flotte de VTT électriques qui pourrait être proposée à une ville qui remporterait par exemple le championnat régional. Tous les frais pour emmener les enfants sur les régionaux et les nationaux sont aussi pris en charge par l'organisateur. Donc voilà, c'est je pense une belle opération au mois de juin, début juin sur Guéret. Donc je suis à votre écoute si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions sur ce projet.
C'est ce dont je vous parlais. Il se trouve qu'au lycée Pierre Bourdon, nous accueillons depuis pour la deuxième année une nouvelle formation supérieure de jeunes étudiants, on va dire, dans la mise en place d'activités sportives. Et que peut-être je vais voir là avec mes collègues, avec la MGEN, s'il n'est pas possible justement de mettre à contribution certains de ces étudiants pour participer à la journée, à l'encadrement, etc. Voilà, donc c'était une illustration de ce que je venais de vous dire tout à l'heure.
Mais c'est une très bonne idée. Alors, bien entendu, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on préparera ces journées, si vous les validez, avec les associations locales, le SAM Triathlon, toutes ces associations seront présentes, le Cercle des Nageurs Guéretois, on aura la Sécurité Civile, on aura les associations locales. On travaillera avec l'Éducation Nationale, bien sûr, puisque ce sont les enfants sur leur temps scolaire qui sont concernés. Et si vous l'acceptez, monsieur Delettre, on invitera, vous nous donnerez un interlocuteur qui pourra participer aux premières réunions de préparation avec nous, de façon à pouvoir intégrer les étudiants. Je pense que plus la ville dans son ensemble participe à ce genre de manifestation, mieux c'est. Gilles.
Oui, non, c'était juste un petit mouvement d'humeur que par rapport à la MGEN qui pourrait quand même utiliser la langue française dans les dénominations. Je rappelle que le français est la langue olympique depuis Pierre de Coubertin, et qu'en plus il existe une loi qui s'appelle la loi Tout Bon, même si on la surnomme la loi Allgood, qui impose l'emploi de la langue française dans ce genre de circonstances. Donc si à l'occasion la remarque pouvait être faite à la MGEN, ça serait quand même pas mal. Merci.
Madame Coanda.
Oui, je vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions que j'avais préparées, notamment le coût global. J'aurais peut-être souhaité qu'il soit inscrit à la délibre, mais bon, c'est... Voilà, j'ai une question. Vous avez ciblé les enfants donc de CE2, CM1 et CM2. Donc c'est sur du temps scolaire. Est-ce que les enseignants sont informés?
Alors, donc,
sont favorables?
L'inspecteur d'académie, donc l'ancien comme le nouveau, elles sont informées et se sont déclarées favorables. Et nous avons la semaine prochaine une réunion d'information avec les directeurs d'école, en espérant leur participation. S'ils s'y opposent, on verra. Mais jamais ces journées n'ont fait l'objet de la moindre opposition d'Éducation nationale où qu'elles soient passées. Mais bien entendu, si vous validez notre adhésion, ça sera en fonction de l'adhésion de l'Éducation nationale à ce projet. Donc c'est la semaine prochaine, Véronique, qu'on voit les directeurs d'école.
D'accord, merci.
Oui, alors j'ai dit un lundi, c'est le 7. Je suis sûre du 7 si je ne suis pas sûre du jour de la semaine. L'idée, c'était de le faire avant que la Trinité s'installe sur le centre-ville. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, d'autres questions? Donc, Monsieur Baillet a assisté à une journée en Haute-Loire, une journée Fifth Day, voilà. Et il en a rapporté des choses très positives, dont un joli t-shirt, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut procéder au vote. Donc, sur ce projet Fifth Day, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le quatrième dossier porte sur une opération organisée par le Conseil départemental pour la citoyenneté et l'autonomie. Ce Conseil départemental est une émanation de la Maison départementale des personnes handicapées. Et donc, il est divisé en deux parties. Il y a la section personnes âgées et la section personnes handicapées. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler sur l'autonomie et la citoyenneté de ces personnes dans toutes leurs dimensions. Ils organisent le 15 octobre à l'espace André Lejeune un colloque pour lequel des personnalités nationales vont participer autour de comment aider les personnes âgées ou handicapées en milieu rural. Et à l'occasion de ce colloque, une pièce de théâtre a été conçue et elle serait programmée l'après-midi. Et donc les organisateurs sollicitaient une subvention qui ne couvre pas toute la pièce de théâtre, bien entendu, la CDCA met une participation. Et donc ils sollicitaient une subvention à hauteur de 700 euros pour programmer cette pièce de théâtre. Ce colloque est ouvert à tous, il est gratuit. Et toutes les personnes intéressées par la thématique de l'aide aux aidants sera la bienvenue. Voilà, y a-t-il des questions sur cette manifestation?
Je vais encore faire une remarque qui abonde dans ce que je venais de dire. Vous savez, on accueille ici à Guéret, au centre de ressources domotiques, une formation en licence domotique et santé. Je pense qu'il serait intéressant d'associer les étudiants ou la structure à cette manifestation, ne serait-ce que pour qu'ils puissent participer, débattre, échanger avec les interlocuteurs qui interviendront durant cette journée. Je me chargerai de faire le relais, si vous voulez bien.
Oui, puis on proposera au CDCA un nombre de places réservées. Il faudra qu'on voit...
Oui, après moi, je ne sais pas, hein, parce que là, je découvre le projet. Il faut voir en fonction de l'emploi du temps des étudiants, etc. Mais je pense que ce serait dommage, en tout cas, de ne pas les solliciter, de ne pas étudier ce qu'il est possible de faire avec eux.
Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Non?
Oui. Dans le même ordre d'idée, je pense qu'on pourrait donner l'information aussi à l'Institut de formation aux métiers de la santé, qui sont bien évidemment amenés à s'occuper de personnes en perte d'autonomie.
Le CDCA s'en est occupé. Autant je suis persuadée qu'ils n'ont pas pensé aux étudiants, mais l'IFSI est bien entendu convié.
Oui, David.
Du coup, j'ai le souvenir que M. Vernier avait évoqué la question de la légalité, entre guillemets, de la subvention. Vous avez pu creuser ce point, puisque la délibération est là ce soir. Il n'y a pas d'incompatibilité
sur la compétence
En fait, sur le fait qu'on soit sur le domaine de l'autonomie, il n'y a pas de souci particulier. Vous aviez pu...
Une clause générale de compétence. Le CCAS, puisque Michel avait posé la question, ne verse pas de subvention. Donc voilà, la mairie peut tout à fait intervenir dans ce cadre-là, sauf si vous vous y opposez, bien entendu.
C'est pas une question d'opposition, et surtout pas sur le fait que vous présentiez ce dossier, parce que c'est un dossier généreux. Mais moi, je trouve toujours un peu dommage qu'une compétence qui est celle du conseil départemental, je m'excuse, c'est une compétence du conseil départemental. Nous prêtons la salle. Je suppose. Donc, c'est encore une subvention supplémentaire. Et il me semble normal qu'on fasse remarquer que c'est toujours vers les collectivités territoriales et notamment les mairies qu'on se retourne pour venir demander de l'argent, encore de l'argent, alors que la compétence est très claire. Et c'est pour ça que j'avais parlé d'associer le CCAS, parce que ce genre de pièce de théâtre a déjà existé. S'est déroulé à l'espace Fayol et il a été, Martial Robert devait le dire, mais elle s'est excusée, elle a eu des petits problèmes chez elle, et le CCAS avait eu la maîtrise d'ouvrage là-dessus, parce que c'est son rôle de s'occuper des personnes de ce type. Et bon, moi je vais voter, évidemment, je suis pas là pour briser les jaunes, mais... Les collèges, c'est le département, on nous demande souvent de payer. Tout ce qui est handicap et choses, c'est le conseil départemental. Et si le conseil départemental n'a pas 700 euros à mettre, alors il faut se poser des questions.
Bon, on est sur une opération d'intérêt public.
Non, mais c'est pas que je veux faire ma mauvaise tête, chaque fois je le ferai remarquer.
D'accord.
Parce que ça suffit d'aller plumer les mairies, à force de plumer les mairies... Ça va devenir compliqué.
L'idée, c'était de montrer aussi notre intérêt sur une thématique qui touche aussi les Guéretois. Bon, je pense qu'on finance aussi d'autres associations, Alcool Assistance ou d'autres, qui ne sont pas forcément non plus sur la compétence de la mairie. Après, je pense qu'il faut voir...
Je ne sais pas lesquelles.
Je pense qu'il est intéressant pour qu'on est sur une thématique d'actualité, que l'aide aux aidants, c'est une question qui est prégnante. On a un CCAS qui travaille sur l'aide aux aidants, et donc je pense que la ville de Guéret peut aussi marquer son intérêt. Madame Boulanger.
Je suis tout à fait d'accord pour que la ville de Guéret y participe. Je voulais juste rajouter une information donc pour revenir à vous, Monsieur Vernier, que le conseil départemental y participe par le biais de l'UDAF et d'autres organismes. Bon, je n'ai pas tout l'ensemble des organismes, mais ils y participent également.
Ça peut pas.
Merci, Madame Boulanger. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je mets au vote. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Donc on va passer, Monsieur Viennois, à la vente d'un terrain.
Effectivement. Donc, dans le cadre de la réalisation du lotissement de Champegaud, il avait été accordé par Monsieur le maire en 2013 un permis d'aménager pour la création de 12 lots. Donc aujourd'hui, Monsieur et Madame Burnet, qui habite Guéret, souhaite acquérir le lot numéro 11. Et donc la cession avait été fixée par délibération du conseil municipal en 2014 au prix de 30,60 € le mètre carré. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé aujourd'hui d'accepter la cession du terrain au prix indiqué et d'autoriser Madame le maire à signer l'acte à intervenir. Pour compléter, il reste encore 5 terrains à vendre. Voilà.
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? Donc, je vous demande d'accepter la cession de ce terrain au prix donc de 30,60 € TTC le mètre carré. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ?
Merci. Commission municipale, monsieur Viennois.
Merci, effectivement. Donc, comme vous avez pu le voir dans les dossiers, monsieur Thierry Baillet, donc, qui était membre de la commission développement durable, souhaitait se retirer de cette commission et oui, il faudrait peut-être qu'il sorte, effectivement. Merci. Non, ça peut.
Bon, ben, on va voter donc.
Excusez-moi, donc il souhaitait se retirer uniquement de la commission développement durable et proposer de siéger dans la commission urbanisme, travaux, nouvelles technologies et dans la commission cœur de ville. Donc nous vous demandions effectivement l'autorisation de pouvoir modifier la délibération du 31 août 2020 et donc de procéder à la désignation des membres comme ça vous a été présenté ci-dessous avec donc la présence de Thierry Baillet.
Juste vous préciser que M. Baillet donc, est chargé pour la ville de Guéret de la gestion de notre patrimoine. Donc c'est à ce titre-là qu'il serait beaucoup plus efficace dans les commissions qu'il vient de solliciter. Voilà. Y a-t-il des questions avant qu'on passe au vote? Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Henri, tu peux lui faire. Henri, tu veux bien lui faire signe? Bien, nous allons. Merci. Donc nous allons passer à la convention de répartition des recettes qui sont issues ou pas du forfait post-stationnement avec la com d'agglo du Grand Guéret.
Oui, effectivement, en 2017, donc le conseil municipal avait adopté des tarifs de stationnement et un forfait post-stationnement dit FPS. Donc à partir du moment où la communauté d'agglomération était compétente en matière d'organisation de la mobilité des aires de stationnement et de voirie, il était nécessaire de reverser les produits de ce fonds, de ce forfait post-stationnement par la ville donc Guéret à l'intercommunalité. Donc on vous a effectivement présenté la convention relative à la répartition des recettes issues des forfaits de poste stationnement pour l'année 2021. C'est une convention qui doit être signée tous les ans entre la ville de Guéret et la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Vous avez effectivement sur la base des prix et des forfaits de poste stationnement de 17 euros. Donc vous avez le coût de mise en œuvre avec le total des dépenses et le total des recettes, ce qui je crois depuis plusieurs années entraîne un déficit et cette année le déficit était de 14 411 euros. Il est quand même nécessaire de signer cette convention avec la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Donc il vous est proposé, si vous avez des questions sur cette convention.
La com d'agglo a donc validé la même délibération au conseil communautaire de la semaine dernière. Donc, il vous est demandé d'approuver la convention relative à la répartition des recettes et de m'autoriser à la signer. Y a-t-il des questions? Bien. Y a-t-il des oppositions?
Non, je voulais juste poser une question. Donc, si je comprends bien, ces horodateurs, là, globalement, ça nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte. On ne pourrait pas s'en débarrasser définitivement?
Alors, il y a effectivement, au niveau, on pourrait s'en débarrasser définitivement, mais sur les recettes et sur les dépenses actuellement, vous avez pu voir donc sur l'année 2020 et l'année 2021 qu'il y a notamment des amortissements annuels des horodateurs qui ont été installés. Il y a du temps passé donc par le personnel de contrôle qui a été diminué puisque maintenant avec les agents de surveillance de la voie publique, ils font d'autres choses aussi, donc ça a diminué ce coût qui existait auparavant. Mais je crois que l'amortissement se terminera en 2023. Donc on aura de toute façon des horodateurs à finir d'amortir. Ce qui explique notamment ce déficit-là.
Après, il y a une réflexion effectivement sur le parking globalement qui a été entamé entre autres après une rencontre avec les commerçants. Donc c'est une politique qui va évoluer, qui sera dont on parlera en commission circulation et en commission urbanisme. Oui.
Donc ce sujet va être abordé pour qu'on puisse effectivement déterminer si on reste sur des zones payantes, lesquelles, si on passe sur d'autres modes de zones réglementées comme par exemple les zones bleues. Voilà, donc ça on va le travailler en commission et ça sera proposé en conseil municipal sur la fin de l'année.
Juste, si vous permettez, pour renseigner monsieur Delettre, le stationnement payant qui avait été instauré n'avait pas été instauré pour gagner de l'argent, mais pour permettre une circulation des véhicules afin d'éviter les voitures ventouses pour les commerces. Mais à une époque où on le contrôlait régulièrement, n'oublions pas la période Covid, hein, ça veut dire, et puis les dégâts, les pannes qu'il y a eu sur les eurodateurs. S'ils avaient tous fonctionné, c'est juste pour ton information, hein, s'ils avaient tous fonctionné et s'ils avaient pu être contrôlés, c'est pas une remarque non plus pour la collectivité, hein, régulièrement, ils rapportaient une recette à la ville qui n'était pas énorme, de mémoire autour de 30 000, 40 000 euros, mais il y avait une recette positive sur les eurodateurs à une époque où on pouvait le faire. Alors après, le travail qui est engagé, je participerai et je donnerai mon avis sur ces choses-là, mais c'était juste pour dire que les sorodateurs n'ont pas toujours coûté de l'argent. Heureusement, d'ailleurs.
Y a-t-il d'autres remarques ?
Non, j'avais levé la main, mais c'était à peu près pour ajouter le même type de précision, c'est qu'effectivement, ils sont parfois en panne, que la période Covid a été une période particulière aussi, et que la rotation est importante aussi pour les commerces. Voilà. Oui.
Très bien. Bien, donc sur cette convention, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Madame Ferreira de Matos, les frais de fonctionnement de l'école privée Notre-Dame.
Merci. Comme vous le savez tous, c'est un dossier que nous votons tous les ans, qui est voté tous les ans au conseil municipal. Donc afin de s'en conformer aux lois de Brie-Germer des 31 décembre 59 et 27 novembre 1977, il avait été décidé par le conseil municipal de 82 de participer aux frais de fonctionnement de l'école donc privée Notre-Dame. Cette année, donc je vous passe un peu le texte, hein, donc cette année et d'après les calculs qui avaient été faits l'année dernière, la participation de la ville de Guéret pour l'année civile 2021 serait égale à 505 euros par élève, hein, pour les classes d'élémentaire, alors que l'année dernière on était à 521 euros. Et donc pour les classes de maternelle, suite à la loi du 26 juillet 2019 et donc à l'école obligatoire à partir de 13 ans, nous passons 3 ans, pardon. Excusez-moi. Nous passerions donc à un montant par élève de classe de maternelle de 2374 euros contre 2221 euros en 2020. Donc la différence en fait est l'augmentation par rapport aux maternelles, hein, est due en fait à la baisse d'effectifs dans les classes donc sur la ville de Guéret. Au fait que ben par contre voilà nos charges elles ne diminuent pas, donc voilà, c'est ce qui augmente un petit peu le budget. Donc pour faire très simple, pour le premier trimestre pour les classes maternelles, hein, cela fera un montant de 15 827 euros et pour les classes élémentaires un montant de 7 070 euros. Donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces propositions et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Merci. Y a-t-il des questions ? Donc je reprécise ce que j'ai précisé en commission mixte, c'est qu'on n'a toujours pas touché le remboursement de l'État pour 2020. Voilà, donc on a eu une année de retard pour rentrer dans nos fonds. Mais c'est une obligation légale.
Oui, madame. Oui, on en a parlé également en commission, mais c'est vrai que cette augmentation mécanique du coût par élève sur l'élémentaire, vous l'avez expliqué, hein, c'est lié au fait qu'il y ait moins d'élèves à Guéret. Donc est-ce que vous pouvez, pour la bonne information de tous, nous repréciser les effectifs scolaires sur Guéret ? Et si vous avez pu analyser la baisse de fréquentation des écoles, c'est une baisse démographique, c'est une fuite vers les écoles autour de Guéret, c'est une fuite vers le privé, enfin voilà, on a échangé sur ce sujet en commission mixte. X, mais pour la bonne information de tous et parce que ça nous préoccupe tous, je pense que c'est intéressant. Et ça met aussi en lumière peut-être les remarques que nous avions pu faire sur un précédent conseil municipal, sur une hausse peut-être trop importante, ou en tout cas à discuter des tarifs hors guéret, puisqu'on voit que les charges fixes pour l'entretien des bâtiments de la ville restent les mêmes. Et que parfois, il ne faut pas forcément aller un peu trop loin dans le curseur. C'est une question en fait d'ajustement assez subtil, parfois.
Pour information, donc au 13 janvier 2021, donc nous avions 350 élèves en classe de maternelle, y compris les toutes petites sections, 629 élèves donc en élémentaire, classe Ulysse comprise, ce qui faisait donc un total d'élèves de 979 élèves, pardon. Et donc, nous avons donc perdu 37 élèves en maternelle et 22 élèves en école élémentaire. Alors, pour vous répondre à la raison de la baisse des effectifs, non, nous n'avons pas eu le temps d'analyser, en fait, le pourquoi des comment. Il y a eu beaucoup de départs de personnes de la ville de Guéret. Alors, on ne sait pas s'ils sont partis vivre dans les villes limitrophes ou ailleurs. On demandera ces informations au service et on vous les apportera dans un deuxième temps.
Oui, il n'y a pas d'urgence, mais en tout cas, c'est intéressant d'analyser s'il faut s'inquiéter durablement. Je pense qu'il le faut.
On est sur un mouvement dégressif, hein, ça c'est clair. Ouais. Hein. On a de moins en moins d'élèves en maternelle, puis en primaire, puis en collège. Hein. C'est un mouvement qu'on constate. Alors, pas d'arrivée massive dans le privé, puisque les effectifs de Notre-Dame ont baissé aussi. Donc, ce n'est pas l'explication. On a des radiations, bien sûr, des départs du département. On a surtout un non-renouvellement des générations, à mon avis, qui fait qu'on marque le pas année après année. Donc, on a perdu une classe à Solan. Et comme on le disait, les charges restent les mêmes, puisqu'on n'a pas supprimé de poste d'ADSEM, par exemple, pour pouvoir continuer à accompagner au mieux les enfants. Mais donc, les charges restent les mêmes. Il faudra qu'on analyse ça l'année prochaine. Mais voilà, alors après, on a aussi quelques espérances. Bon, on a l'arrivée des fonctionnaires de Bercy qui est toujours d'actualité. On se les fait confirmer par la DGFiP sur 2022. Les personnels qui arrivent sur le territoire ne sont pas des cadres chevronnés, puisque je pense que le choix de venir en Creuse ne doit pas être le premier choix de ces professionnels. Donc on risque d'avoir plutôt des jeunes diplômés qui arrivent avec leur famille, du moins c'est ce qu'on espère. On a un mouvement depuis la période Covid qui est très marqué d'achat de maisons sur Guéret. L'immobilier s'enflamme, donc espérons là aussi qu'on aura des enfants qui arriveront. Mais on perd de plus en plus d'enfants dès la maternelle, donc je pense que c'est un mouvement de balancier qui est inexorable, sauf à ce que les événements extérieurs viennent le contrecarrer. Michel, vous voulez dire quelque chose ?
Non, je n'ai pas de commentaire.
En tout cas, ce n'est pas de la scolarisation sur le privé, puisque Notre-Dame subit la même perte en pourcentage.
On constate ça depuis quelques années. Hein. Oui.
Les chiffres là que vous nous avez annoncés, Mme Ferreira, c'est à la rentrée de septembre, là, c'est moins 37 en maternelle et moins 22 en élémentaire,
c'est ça?
Alors oui, c'est les effectifs en baisse en fait comparé à donc, les chiffres que je vous avais donnés pour janvier 2021. Donc on a pu remarquer qu'à la rentrée, effectivement, on avait moins 37 enfants en maternelle et moins 22 en élémentaire.
Est-ce que les deux ans sont compris? Est-ce qu'ils ont compté? Je ne sais pas pourquoi.
Oui, parce qu'il y a les toutes petites sections qui sont comprises dans les effectifs que je vous avais donnés.
Parce que moi, je travaille sur l'école maternelle Jacques Prévert. Et le directeur que j'ai interrogé sur la baisse d'effectifs, puisque là, ils sont passés à environ 17 par classe, ils ont perdu 20 élèves.
C'est la classe qui a perdu, l'école qui a perdu le plus d'élèves.
Donc là, c'est inquiétant. Et il y a d'autres écoles de Guéret qui sont passées bien en dessous de 20. Donc, oui, voilà.
Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Donc, il vous est demandé de vous prononcer sur les propositions faites de contribution obligatoire à l'école Notre-Dame et de m'autoriser à signer tout document nécessaire à l'exécution de la délibération.
Je propose, Madame la maire, si vous en êtes d'accord, suite à votre réflexion, que nous prenions une petite motion rapide à la fin pour demander à l'État de remplir ses obligations par rapport au remboursement qu'il doit faire à la collectivité pour les enfants de 3 ans à l'école privée, parce que ce combat a été un combat de tous les maires de France. L'obligation scolaire en 3 ans, on en pensait ce qu'on voulait. À titre personnel, j'y étais plutôt favorable pour l'égalité des chances et un certain nombre de choses. Mais il y a un engagement, comme vous l'avez dit, et ce n'est pas acceptable. Nous, on ne peut pas payer les choses avec plus d'un an de retard. C'est une très mauvaise habitude qui est prise, alors rassurez-vous, par tous les gouvernements, malheureusement. Mais je pense qu'une lettre du conseil municipal dans sa totalité vous aiderait pour dire il faut payer ce que vous nous devez, quoi. Hein ? Parce que pour nous, c'est de l'argent qui est immobilisé, qu'on ne peut pas utiliser et qui peut conduire à nous faire avoir des difficultés.
C'est une excellente idée, Monsieur Vernier. Je pense que tout le monde en est d'accord. Donc merci de cette idée. On va effectivement prendre cette motion. Donc y a-t-il des oppositions sur ce vote, des abstentions ? Je vous remercie. Monsieur Gargadenec, la désignation d'un représentant à la CLECT.
Alors, la CLECT est chargée de l'évaluation des coûts induits par les transferts de compétences entre les communes et la communauté d'agglomération. La création et le nombre de membres de la CLECT ont été déterminés par délibération du Conseil communautaire, dont c'était en juillet 2020. La commission doit être composée d'au moins un représentant par commune, désigné par délibération du Conseil municipal. Madame le maire propose donc de procéder à la désignation au sein du conseil municipal d'un représentant pour siéger au sein de la CLECT. Donc la candidature a été déposée, donc c'est celle de Madame le maire. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal de décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation du représentant de la commune au sein de la CLECT de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, de désigner Madame le maire comme représentante de la commune au sein de la CLECT et d'autoriser Madame le maire à signer tous les actes liés à cette délibération.
Bien. C'est normal.
Il est bien entendu que je ne voterai pas. On a bien pris effectivement des précautions. Je peux être présentée par un adjoint qui peut apporter son éclairage à la CLECT suivant les sujets qui sont abordés. Et tout élu peut se faire aussi accompagner de quelqu'un des services, parce que c'est effectivement une commission extrêmement importante et très technique sur laquelle il faut absolument qu'on soit sûr d'avoir toutes les compétences requises. Donc le plus simple, c'était de désigner le maire, mais il est bien entendu que certains élus et des personnes des services seront amenés à se rendre à la CLECT. Voilà, y a-t-il des questions sur ce sujet-là ? Non ? Donc, tu veux faire procéder au vote ?
Oui.
Merci, Monsieur Gargadenec. La durée d'amortissement des immobilisations.
Alors, la durée d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est fixée pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par délibération de l'Assemblée délibérante. Les conditions actuelles d'amortissement ont été fixées par délibération des 16 septembre 2009 et 26 mars 2012. Alors, afin de prendre en considération l'évolution des instructions budgétaires et comptables, ainsi que l'intégration donc dans l'actif de la commune du patrimoine immobilier lié au legs de M. Henri Labelle, il vous est présenté une nouvelle délibération qui regroupe les modalités d'amortissement. Donc, Concernant l'actualisation donc, de la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées qui doivent obligatoirement être amorties en fonction de l'objet financé, il convient de fixer les durées d'amortissement conformément à la réglementation. Donc 5 ans pour les subventions qui financent des biens immobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties aux entreprises. 30 ans pour les subventions qui financent des biens immobiliers ou des installations et 40 ans pour les subventions qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national. Une délibération spécifique pourra fixer une durée d'amortissement plus courte pour une subvention qui le nécessiterait. Donc c'est pourquoi il vous est soumis un nouveau tableau reprenant l'ensemble des durées d'amortissement applicables à partir de 2022 sur les acquisitions 2021, intégrant notamment les immeubles productifs de revenus. Les membres du conseil municipal voudront bien se prononcer sur ces propositions.
Bien, donc vous avez tous eu le tableau en annexe. Est-ce que vous avez besoin de précisions? Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Donc je vais passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Toujours Monsieur Gergadenec, l'adhésion au groupement de commandes pour la fourniture de carburant.
Alors, en 2017, un groupement de commandes a été constitué entre la commune de Guéret et la communauté d'agglomération de Grand-Guéret pour la passation des accords cadres à bons de commande relatifs à la fourniture de carburant. Donc, le groupement de commandes susvisé arrive à son terme. Il est nécessaire, pour des raisons d'optimisation de tarifs et de frais, de renouveler la convention pour passer à nouveau des marchés en groupement entre la commune de Guéret et la communauté d'agglomération du Grand-Guéret. La coordination donc, du groupement sera assurée par la communauté d'agglomération du Grand-Guéret, laquelle aura la qualité de pouvoir adjudicateur. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Guéret à ce groupement de commandes, de désigner M. Stéphane Chatondeau comme référent technique et M. Marouf Oubodi comme référent administratif du groupement, d'autoriser Mme le maire à signer le projet de convention constitutive du groupement, ci-joint, ainsi que tout document nécessaire à sa bonne exécution.
Bien, précisons là aussi qu'au dernier conseil communautaire, cette délibération a été votée. Y a-t-il des questions? Bien, donc je vous propose de mettre cette délibération au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Monsieur Moutou, l'adoption d'une convention de servitude avec Enedis.
Dans le cadre de travaux d'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau de distribution publique d'électricité, Enedis doit déployer une nouvelle ligne basse tension souterraine sur une longueur de 10 mètres dans la parcelle BH112 dans la ville de Guéret, dont la ville de Guéret est propriétaire, correspondant à la cour arrière de l'hôtel de ville, afin de raccorder au réseau existant un nouveau coffret de branchement situé dans le domaine privé, conformément au plan joint en annexe. À cet effet, en complément de la permission de voirie délivrée pour ce qui concerne l'occupation du domaine public de la rue des Martyrs de la Résistance, le projet de convention de servitude, également joint à l'annexe, a été établi. Cette servitude fera l'objet d'une compensation financière forfaitaire de 20 euros qui sera imputée en recette à la fonction 810. Article 703-23. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la propriété des personnes publiques et vu la demande du bureau d'études et d'ingénierie CERTEC, en date du 26 juillet 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de servitude et d'autoriser Madame le maire à la signer ainsi que tous les documents nécessaires à l'aboutissement de ce dossier.
Avez-vous des questions? Non, donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Alors, dans le même style, convention de servitude avec GRDF.
Dans le cadre de travaux d'amélioration de la qualité de desserte d'alimentation du réseau distribution publique de gaz, GRDF doit déployer une nouvelle canalisation de distribution de gaz sur une longueur de 114 mètres dans la parcelle BH296 dont la ville de Guéret est propriétaire, afin de raccorder deux canalisations existantes conformément au plan joint en annexe. À cet effet, en complément de la permission de voirie délivrée pour ce qui concerne l'occupation de domaine public sur la voie située entre le bâtiment numéro 16 Charles de Gaulle et la quincaillerie numérique, le projet de convention de servitude, également joint à l'annexe, a été établi. Cette servitude ne fera l'objet d'aucune compensation financière, donc, vu le code général, Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de servitude, d'autoriser Madame le maire à la signer ainsi que tous les documents nécessaires à l'aboutissement de ce dossier.
Une demande de précision ? Bien. Donc y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Donc une nouvelle convention de servitude avec la société Réseau de Transport d'Électricité.
Bon, en fait, tous les concessionnaires. Dans le cadre de travaux sur la liaison aérienne 90 KV numéro 1 à Lavaux-Mansa, la société RTE doit intervenir sur la parcelle CH0312 située au lieu-dit Cher-Lamazade, dont la ville de Guéret est propriétaire, conformément au plan parcellaire joint à l'annexe. La société fait un projet de convention de servitude de passage en vue du renforcement des fondations, de la surveillance, de l'entretien et de la réparation des supports numéro 8 de la ligne aérienne précisée ci-dessus a été établi. Le dit projet de convention est également joint à l'annexe. Cette servitude fera l'objet d'une compensation financière forfaitaire et définitive au titre de l'implantation de supports de 150 € qui sera imputée en recette à la fonction 810. Du budget principal est versé lors de l'établissement de l'acte notarié réitérant la convention de servitude. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de servitude de passage et d'autoriser Madame le maire à la signer ainsi que tous les documents nécessaires à l'aboutissement de ce dossier.
Des questions, Monsieur Brunati ?
Non, c'est juste une simple question parce que sur trois servitudes, il y en a une à 20 €, une à 0 € et une à 100. Je voulais savoir s'il y avait un barème ou quelque chose, ou c'est au doigt mouillé que.
Ouais, c'est à la distance, je suppose.
C'est qui calcule ça ? C'est vrai c'est le concessionnaire qui le propose ?
Oui, certainement, oui.
D'accord. Donc, c'était de la curiosité. Il y avait de tels écarts entre une servitude à l'autre que. Merci.
Bien, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Monsieur Moutot, des coupes d'arbres.
Donc, approbation de l'assiette de coupe 2022 pour les forêts relevant du régime forestier. Dans le cadre de la gestion de la forêt communale de Guéret, confiée à l'ONF sur la période 2005-2024, sur la base du document d'aménagement forestier, il est proposé pour 2022 l'assiette de coupe suivante. Donc, des coupes prévues dans le document d'aménagement forestier, donc une coupe de Douglas en éclaircie, une coupe de hêtres et de chênes en coupe secondaire, et ainsi qu'une coupe de hêtres en amélioration de peuplement âgé de 30 à 60 ans. Il est précisé que le mode de vente prendra la forme de vente publique par soumission avec mise en concurrence, adjudication ou appel d'offres. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'assiette de coupe 2022 dans les parcelles concernées apparaissent sur le plan joint.
Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Non ? Donc je vais vous demander de voter. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie.